105 FM.
Alors que les parents n'en peuvent plus de leurs enfants, d'autres sont en manque sévère de câlins. Grindr et autres hornets ne désemplissent pas. Est-ce que tout reste virtuel? On ne sait pas. Une chose est sûre toutefois, on va passer un bon moment ensemble, car c'est Onyx Live. We could do this all night. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Tonix Live, l'émission LGBT de l'association Tonix. Je ne sais pas si vous comptez les jours passés ou les jours qui restent avant le retour du plan foireux, mais comptez sur nous pour vous faire passer un bon moment ensemble. Et tout ça, eh bien, on a mis les petits plats dans les grands. Non, rien de sexuel malheureusement. On est en confinement. Lui, il répond à ses fans sur Twitter et mate leur production. Autant dire qu'il est surbooké. Il prend quand même le temps de faire une pause avec nous. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Chez lui, il n'y a pas que la coiffure qui est insolite. Confiné dans une boîte, c'est un comble. Bonsoir Daniel.
Bonsoir à tous.
Lui, c'est le géo d'Internet, toujours prêt à lancer un challenge pour qu'on parle de lui dans les journaux. Bonsoir Dylan.
Salut tout le monde.
Entre deux réunions, trois tableaux Excel et quatre courriers, il trouve quand même le temps d'apprendre son texte. Il sera en effet sur les planches en fin d'année, enfin normalement. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
Et enfin, lui, il a Netflix, OCS, Amazon et Disney. Autant dire qu'il ne voit pas beaucoup la lumière du jour. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Les présentations sont faites. Vous nous écoutez peut-être en FM sur Angers avec les 101.5 de Radio G ou alors sur Nantes avec JetFM 91.2 ou encore partout dans le monde sur fréquenceZig.com. Sachez que vous pouvez aussi nous retrouver aussi sur tous les Tonix Live, hein, sur tonix.asso.fr, mais aussi sur Deezer et Spotify. Alors que vous soyez LGBTQI, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Bienvenue, c'est Tonix Live. En deuxième partie d'émission, on reparlera de la situation actuelle, mais sous le prisme de l'humour, car sur les réseaux, eh bien, vous vous défoulez et on va revenir sur quelques-unes de vos pépites qui nous ont fait nos journées. Mais en ces temps de confinement, on en profite aussi pour ranger. Nous, on a classé vos messages. Vous nous écrivez par Facebook, Insta, mail ou par le site tonix.asso.fr. Vous nous parlez de votre vie, de vos difficultés à trouver l'amour ou même à le garder. Eh bien, on répond toujours à tout le monde, évidemment, mais ce soir, on a décidé de prendre quelques-unes de vos questions pour se les poser. Autant vous dire qu'on n'a aucune légitimité pour répondre à vos questions. Nous ne sommes des spécialistes en rien. On est juste comme vous, mais partagez notre avis. Vous êtes peut-être à vous forger le vôtre. Les réponses qu'on vous apportera ce soir n'engagent évidemment que nous. Vous n'êtes pas forcés de suivre nos recommandations. On est là entre amis et on papote. Alors, par exemple, on commence directement par la question de Marc d'Angers qui demande si on peut attraper le coronavirus en faisant une fellation.
Ça dépend s'il a son attestation.
Ah oui, il n'y a pas ça à cocher, c'est vrai, fellation dans la...
Ben, ça devrait.
Ça devrait, on devrait rajouter ça.
On en parle.
Ouais.
Course essentielle. Hein.
On va appeler à Emmanuel. Peut-être pour répondre Florian plus là-dessus.
Oui, si vous voulez. Après, le coronavirus n'est pas sexuellement transmissible en tant que tel. La transmission, elle va se faire parce qu'il va y avoir contact, rapproché. Et quand tu fais une fellation à quelqu'un, j'imagine pas que tu ne sois pas à moins d'un mètre de lui, sauf si son anatomie le permet.
Ça dépend qui.
Ouais, c'est ça. En fait, pour Dylan, ça voilà. Marche, c'est ça.
Mais, je n'ai rien demandé, mais merci.
Ouais, c'est vrai que des fois, on a des relations qui sont relativement froides, mais enfin, si c'est juste effectivement sans même se rapprocher ou rester juste en bas, c'est un peu dommage.
C'est ça. Et puis, une fellation avec un masque, c'est assez compliqué.
Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. Par contre, pour les filles, un petit cuni avec la digue dentaire, c'est bien. Ça protège. Il faut le garder pour tout.
Bah, ça te protégera des IST et de ça, mais pas du coronavirus.
Pas du corona, ouais, ça c'est sûr.
Attends, je me pose la question. Moi, déjà, si tu mets un masque déjà sur ta bouche, mais tu fais un trou au niveau de la bouche, mais que tu mets une capote en plus, est-ce que ça passe?
Il faut isoler tous les bords et tout, ça devient compliqué quand même. Hein.
Ouais, bah tu mets une tenue en latex, quoi, en gros.
Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, l'avantage, si t'es moche, ça peut passer, quoi. C'est un beau masque. Daniel, t'as un avis là-dessus?
Exactement pareil que tout le monde. C'est clair qu'il est évident qu'on ne va pas sucer du caoutchouc, se la jouer protection nucléaire et que le corona ne se transmet pas par, par voie sexuelle, mais effectivement, sucer à un mètre, ça va être un peu compliqué. Hein.
En l'état actuel des connaissances qu'on a sur le coronavirus.
Hein. Oui, parce que ça se trouve, ils vont nous dire que c'est sexuellement transmissible à un moment donné. Hein.
Non, je crois qu'il n'y a pas de virus dans le sperme, il n'y a pas.
Bah, le sida, si, déjà. Donc,
oui, le virus n'est pas
ah, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. On a cherché, on l'a pas trouvé.
Okay. On sait que le corona se transmet d'une mère à l'enfant par le fœtus.
Oui.
On sait également que une partie des séquences ADN du corona ressemblent et sont similaires au HIV. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qu'on apprendra plus tard. Effectivement.
Vaut mieux s'abstenir, n'est-ce pas, Alexandre ?
Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
D'accord. Très bien. Bon, bah donc, oui, bah non, ça se fait pas, mais vaut mieux éviter quand même. Hein. Voilà ce qu'on pourrait répondre à cette première question donc, de Marc Danger. Deuxième question, pour rester dans le sujet, il y a Kevin qui s'étonne que les sites de drague sont encore pleins de mecs qui cherchent des plans pour tout de suite. Alors, est-ce que les gays respectent le confinement ou continuent les rencontres ? D'après vous.
Moi, c'est pas les gays qui respectent le confinement ou qui continuent à rencontrer, c'est juste les cons qui ne respectent pas le confinement, c'est tout en fait.
Ouais.
C'est juste ça.
Hein. Ou est-ce que c'est plutôt en fait, on n'a pas changé nos statuts et puis tout de suite ou les choses comme ça, c'était pour avant le confinement et on n'a pas changé.
Je pense qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris qu'il fallait rester chez soi en fait. Je pense tout simplement ça en fait.
Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez les autres ?
Je pense qu'il y en a aussi qui ont envie de parler et puis qui font leur réservation pour le déconfinement.
Pour plus tard.
Ah ouais, c'est ça, ouais, pour plus tard. Il va y avoir une liste d'attente.
Je sais pas. J'ai un créneau dispo entre midi et 2 le 11 mai, si vous le souhaitez.
C'est ça, ouais. Ah oui, effectivement, ça va être chaud. Hein. Alexandre, toi qui es beaucoup sur les réseaux sociaux également, c'est quoi ton avis là-dessus ? Est-ce que tu penses que les gens consomment ou ça reste virtuel ou justement on fait des plans pour après ?
Eh ben, clairement, d'après tout ce que j'ai pu voir, il n'y a pas que du virtuel et les gens, malgré le confinement, continuent de se déplacer.
Aïe, 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 ça, l'appel du sexe est trop fort, ça va pas du tout ça. Hein.
Par rapport à mes clients que j'ai pas mal sur les réseaux, ben, je peux te dire que ça y va. Hein. Donc, clairement non, respecter le confinement les gars, et puis pas que les gars, je pense que c'est un phénomène qui comme tu le disais tout à l'heure, c'est des cons qui respectent pas le confinement, parce que je pense que chez les hétéros c'est la même, hein, de toute façon. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi clairement, de mes clients qui font des plans, oui c'est évident. Il y en a beaucoup.
Alors, on rappelle que tu tiens une boîte à un club LGBT, donc ce sont tes clients, d'accord. Il faut préciser quand même, hein, après on pourrait imaginer n'importe quoi sur ton métier. Alors,
oui, tout à fait.
Alors, troisième question. Ça va être peut-être sûr pour Florian. Est-ce que la PrEP protège du coronavirus ?
Oh, alors là... on n'a pas de données sur la question, mais je pense que c'est assez hasardeux de penser que la PrEP protégerait du coronavirus.
Alors déjà, tout le monde ne sait pas ce que c'est que la PrEP, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est, s'il te plaît ?
Oui, la PrEP, c'est le traitement préventif anti-VIH. Voilà, c'est à prendre avant un rapport considéré à risque par rapport au VIH. Donc ça te protège du VIH, si tu es en contact avec lui, à un moment donné dans un rapport sexuel.
Et donc de prendre ça, apparemment...
Et donc non, enfin la réponse
est... On n'a aucune info là-dessus.
Et clairement non, clairement non.
D'accord. Pour les autres, je pense que voilà, vous n'avez pas d'avis spécifique sur ça. On va continuer avec Fred de Nantes qui nous dit... Ah, alors ça, les autres, par contre, vous allez pouvoir répondre. Je me masturbe 6 fois par jour, tellement je m'ennuie. Est-ce que c'est dangereux ?
Je tiens à lui demander à ce monsieur-là, est-ce qu'il finit par avoir des crampes à la fin de la journée ?
Ah, je sais pas, mais 6 fois, c'est déjà pas mal.
Des ampoules.
Il éjacule de la poudre, à mon avis.
Oui, faut boire beaucoup, effectivement. Bon, d'après vous, est-ce que c'est dangereux ?
Ça rend pas sourd.
Ça rend pas hein ?
Ça rend pas sourd.
Hein ? Il se fait avoir à chaque fois. Alexandre, ça rend sourd ?
Non, par contre, j'avais lu un truc, c'est qu'aux États-Unis, un mec de 14 ou 16 ans, je crois, avait fait une crise cardiaque en s'étant trop masturbé durant la journée.
Bah, c'est vrai qu'au bout de la 46e fois dans la journée, ça commence à faire beaucoup, tu vois.
Bah. En tout cas, ce qu'on peut peut-être répondre pour Fred, c'est qu'à partir du moment où ça lui fait pas mal, ça va. Mais s'il commence, ça commence à lui faire mal, vaut mieux qu'il arrête, qu'il écoute son corps, en fait.
Et après, il faut faire attention à une chose. À notre cher Fred, c'est que l'addiction au porno, ça peut être mauvais après pour avoir une vraie relation.
Ah oui, aussi. Bon bah là, effectivement,
il en manque.
Là, il en manque.
Bah oui, s'il trouve son bonheur sur les sites, il est clair qu'après, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir une relation suivie. Ou alors, il faut vraiment que la personne le satisfasse. Mais le porno, bon, ça peut être un peu compliqué.
Oui, mais on peut très bien se masturber sans
tout porno. À fait. Oui, tout à fait.
On peut fantasmer juste comme ça. Après, le nombre de fois, 6 fois, c'est pas non plus extraordinaire pour les adolescents. Hein.
Ça dépend s'il fait une pause de 10 minutes entre chaque. Voilà.
C'est ça. Voilà.
Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il aura les bras, bien gonflés au moment.
Alors un seul, ou alors faut qu'il change de main. Bah voilà, c'est voilà, ça.
Il a envie
trois mains gauches, trois mains droites.
Bras droit, une sur deux bras gauche, quoi.
Ouais. Mais c'est ça. Il faut qu'il varie un petit peu les plaisirs. En tout cas, c'est très bon pour sa prostate, hein, pour le cancer de la prostate. Je pense que là, il est bon. Hein. Il est bon pour ne pas l'avoir.
Parce
que c'est, oui, c'est ça. C'est très bon pour ne pas l'avoir préventif. Donc voilà, Fred, pour la réponse. Allez, une petite question de Cyril qui s'interroge sur son couple. Ah bah tiens, justement, ça va peut-être rebondir. Nous ne faisons plus l'amour avec donc son conjoint, j'imagine, depuis le confinement. Est-ce la fin de notre couple ?
Alors moi, j'ai quelque chose à dire.
Oui.
J'ai quelque chose à dire là-dessus parce qu'effectivement, le confinement a ramené les gens face à eux-mêmes. Face à leur situation. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne supportent pas être seuls face à eux-mêmes, être seuls face à leur âme sœur. Et c'est un révélateur, ce confinement. C'est vrai que c'est un révélateur des relations humaines, amoureuses, des défauts qu'on ne veut pas voir et des problèmes qu'on s'est voilés. Voilà. Et effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut dire à notre auditeur, parler, savoir pourquoi, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou, savoir pourquoi ils font plus l'amour. Est-ce qu'ils ont un problème d'entente? S'ils ne font plus l'amour depuis le confinement, c'est qu'il y a un problème d'entente et de cohabitation H24.
Ou peut-être qu'ils l'ont fait trop souvent parce qu'ils avaient que ça à faire et qu'au moment, à un moment donné, ils en ont un peu marre, non?
Je ne sais pas si on peut se lasser de l'amour, mais bon, enfin, de faire l'amour. Mais
oui, je pense qu'il parlait de relations sexuelles, hein, en amour, vraiment.
Faire l'amour, pardon.
Oui, mais tu as
tout à fait raison.
Il n'y a pas que ça non plus dans les couples. Les autres, qu'est-ce que vous avez comme avis? Alexandre, tu as quoi comme avis là-dessus? Est-ce que pour lui, c'est mort ou est-ce que c'est juste parce que c'est le confinement et que ça reviendra après?
Bah, c'est peut-être parce que justement, il y a une perte d'amour aussi. À force de voir la personne tous les jours, tu es moins en manque de voir cette personne et du coup, tu as peut-être moins envie de faire l'amour ou autre. Donc, pour moi, c'est pas un gros problème.
D'accord. Donc, le manque fait partie de la relation. Il en faut un petit peu pour que ça dure. Ok, intéressant. On note. Florian, un avis?
Je pense qu'il. Enfin, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit, Daniel ou Alexandre. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas se prendre des décisions, par exemple, pendant cette période-là de confinement qui n'est pas du tout classique. Enfin, c'est pas une période. C'est pas une période bien. Enfin, voilà, c'est pas la vraie vie, quoi, entre guillemets, quoi.
Donc, c'est pas la normalité.
Ça exacerbe pas mal de choses sur nos relations. Et voilà, je pense qu'il faut attendre la fin de cette période-là assez compliquée pour voir si ça revient ou si effectivement c'est quelque chose de plus lointain.
D'accord.
Je sais pas.
Donc voilà, il est urgent d'attendre, effectivement. Dylan, une idée là-dessus?
Moi, je pense que même si le sexe a une part importante dans un couple, je pense pas qu'effectivement ça fasse tout. Ça peut être passager, ça peut être effectivement depuis le début du confinement, je sais pas combien de jours on est, mais je pense que pour moi c'est passager. Et puis s'il y a un amour sincère derrière, et puis s'il y a encore du désir, ça reviendra. Je pense que le confinement avec une période de non-sexe, ce n'est qu'une phase.
Ok, donc urgent d'attendre. On a noté la réponse pour Cyril. Allez, on va maintenant faire les symptômes un petit peu le corona et revenir aux questions plus classiques dans un instant, mais juste après une petite pause. Est-ce que vous vous souvenez d'Helmut Fritz?
Ah, oh, ça m'énerve.
Voilà, c'est ça, qui chantait « Ça m'énerve ». Eh bien, il a fait lui-même une version spéciale corona, parce que ça l'énerve également, hein, cet épisode. Donc justement, ben, on l'écoute. Voici Helmut Fritz dans Tonix Live.
Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. Et d'un verre, mais tout Paris est désert. Ils sont tous à la maison. Moi aussi, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve.
assis rue de Grenelle. Je demande un masque et du gel, mais on vit dans quelle époque? Parce qu'il y a la rupture de stock. Toutes celles qui sont plus et picolent à la Kate Moss. Le rouge à lèvres c'est fini, pas le temps, y'a les gosses. Toutes celles qui font pas du 34 comme Marwan Woods. D'ailleurs elles ont raison. T'enfileras un jogging, t'éternueras dans ton coude. Wuhan. Ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Devant Bichat, la folie, ils prennent que les VIP. Moi j'arrive sur mon brancard, on me dit non, tu repars. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. J'appelle Amazon, une blondasse au téléphone me dit:
je peux vous aider?
J'ai plus de PQ, vous livrez. Elle m'énerve. Mon Dieu, qu'elle m'énerve. J'ai vu une chauve-souris milliardaire. J'ai dit: Batman, vous foutez tout en l'air. Puis j'ai croisé Macron dans les vestiaires. Il m'a dit: elle vous trompe chez toi.
Nous sommes en guerre.
Toutes celles qui ont chopé le cul de Kardashian. Qui peuvent plus s'asseoir, arrêter le parmesan. Ça m'énerve tous ces gens qui font la queue devant le Franprix. Tout ça pour des panzani. Mais bon, en 5 minutes c'est cuit.
Ça m'énerve.
Ça m'énerve.
C'était Helmut Fritz avec Ça m'énerve, spécial confinement. Dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur les bons mots et les parodies. Mais pour l'instant, on continue les questions des auditeurs. Alors, on a Franck de Laval qui demande si on est vraiment obligé de mettre une photo sur les sites de drague pour trouver un mec. Et il précise: et est-ce que les photos de sexe sont aussi normales à envoyer et un passage obligé pour pouvoir rencontrer? Alors d'abord, est-ce que on peut ne pas mettre de photo? Est-ce qu'on est obligé de mettre une photo pour trouver quelqu'un sur les réseaux?
Alors par rapport à la photo, moi j'ai un avis très tranché dessus. C'est pour moi, je dis que c'est mieux parce que on est le nombre de fois où je suis tombé sur des faux profils de personnes sur des sites de rencontres, et je peux vous assurer que c'est pas agréable, vraiment pas du tout agréable de se dire qu'on a échangé avec une personne qu'on s'apprête à du coup à partager un moment en tête à tête, et que la personne ressemble mais pas du tout à la photo. Je parle aussi de mettre une photo fake, tout simplement. C'est pour moi, c'est, je dirais, normal de mettre une photo. Après, je peux comprendre que des gens ne soient pas à l'aise avec eux-mêmes, donc mais après c'est mon avis.
Mais si c'est juste pour parler?
Ah, mais si c'est juste pour parler, oui, on s'en fout de la gueule de la personne, quoi.
Mais il faut vraiment le préciser dès le départ, quoi, que c'est que pour parler. Il ne faut pas faire de fantasmer, ouais. Alors que...
C'est ça.
Ok. Un autre avis, Florian, là-dessus?
Bah, c'est quand même mieux de mettre sa photo, et une vraie, et une récente, effectivement. Après, de toute façon, il y a des sites qui obligent le fait d'avoir une photo, déjà.
Oui, enfin, on peut mettre ce qu'on veut, effectivement, ouais. Comme disait Dylan.
Oui,
hein.
Ouais, ouais.
Olivier?
Moi, c'est mieux, oui.
D'ailleurs, Florian, tu retireras la photo qui date de 2015, s'il te plaît.
C'est vrai.
Bah, je pense que quand tu veux draguer un mec, je sais pas moi, dans une boîte de nuit ou un bar, tu fous pas une cagoule sur ta gueule pour lui parler.
Bah, donc, si.
Non. Donc, pour moi, faut aller à visage découvert.
Ouais. C'est vrai que les bonnes langues vous diront ah bah oui, mais le physique, ça fait pas tout, tout ça, mais enfin, c'est des hypocrites quand même un petit peu. Daniel, un avis là-dessus ?
Moi, je vais être un petit peu cash. Quand j'étais sur le marché il y a quelques années,
Tu ne dis plus du tout, hein, c'est ça, on va dire. Il n'écoute pas ton mari. Il n'écoute pas l'émission, ton mari, hein, tu peux dire.
non, il écoute. Et puis même, mais. Moi, je suis toujours parti du principe que pour obtenir ce que je voulais, il fallait que je mette une photo. Et j'apprenais ça pratiquement comme un produit. Il faut donner envie.
Oui, tu disais, donc, je suis sur le marché.
La photo, elle est importante.
Ah oui, effectivement.
Une photo assez révélatrice, pas retouchée, pas voilà.
Alexandre, est-ce que toi, tu parles avec ceux qui n'ont pas de photo, par exemple ?
Alors moi c'est très simple, sur les sites de rencontres ou les applis de rencontres, les personnes qui me parlent sans photo, j'en demande une au premier message et si j'en reçois pas, je bloque. Voilà.
D'accord. Souvent c'est ça, c'est même des gens qui viennent te parler directement après avoir envoyé un message du style salut, bonjour, un truc comme ça, ils envoient directement une photo et ça je trouve ça aussi pas mal, tu vois. Mm-hmm. Parce que au moins sur ce qu'on appelle le panel sur le trominoscope de l'application, au moins on ne voit pas qui c'est et c'est seulement, ils envoient une photo seulement à la personne à laquelle ils vont parler, tu vois.
D'accord. Donc pour la
ça, deuxième... ça va encore.
Ouais, ça, ouais. Ça va encore. Oui, ça va encore. Est-ce que donc la deuxième partie de la question, c'est est-ce que les photos sexe sont aussi est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde fait ça déjà?
Bien sûr, tout le monde fait ça. Non, j'ai.
Bon, Florian fait ça déjà. Ok.
Je dirais que les personnes font ce qu'ils veulent en fait. C'est s'ils ont envie d'envoyer des nudes à ce moment-là, ça à une personne tierce, bah, qu'il le fasse, quoi, peu importe, tant que c'est consenti et tant que les deux parties sont d'accord, personnellement, il fait ce qu'il veut, quoi.
Ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Le consentement à recevoir une photo de ce genre, je pense que c'est important de demander aussi à la personne si elle souhaite recevoir la photo, une photo plus dénudée, quoi.
Il y a un bouton sur certains réseaux qui dit je ne veux pas recevoir tout de suite de photos de sexe.
Ouais, sur Grindr, en bas du profil, ouais, effectivement, tu peux sélectionner si tu acceptes de recevoir effectivement des photos un peu plus osées ou non. Et bon, bah, généralement, personnellement, soit tu regardes, soit tu regardes pas, mais ça, c'est bien mieux de regarder si la personne accepte en face, quoi.
Bon, alors vous, franchement, est-ce que vous envoyez ou est-ce que vous avez envoyé des nudes déjà?
Oui.
Bah oui.
Oui. Bah oui, alors Alexandre, j'imagine que oui.
Je ne répondrai pas.
Florian.
Ah oui, oui, oui.
Ouais aussi, Dylan aussi.
Alors oui, mais pas sur Grindr ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de discussion avant. J'en vois pas ce qui me sert de Brakmar qui fait à ce qui paraît plus d'un mètre. C'est j'ai l'air ouais. Début d'émotion.
Donc plus sur Snap ou sur des applis à côté, quoi.
Bah, même pas sur des applis à côté ou quoi que ce soit, c'est quand uniquement il y a conversation un petit peu plus développée avec la personne, quoi. Pas au bout du troisième message, quoi.
D'accord. Bon, Daniel, lui, il est plus sur le marché, donc il envoie plus de nudes. T'en envoyais à l'époque ?
Je le faisais. J'ai connu les débuts de Grindr.
D'accord.
Je le faisais, si.
La dernière partie de la question, donc est-ce que c'est un passage obligé pour pouvoir rencontrer ?
Non, par contre, non. Ah.
Donc pour Florian, tu pourrais rencontrer quelqu'un que tu n'as pas vu, tu as vu que la tête, en fait, et il t'a pas fait voir le reste.
Alors, pas qu'une photo non plus. Hein. Je pense que plusieurs photos, c'est déjà plus rassurant pour rencontrer les personnes.
Mmh. Olivier.
Bon, faut découvrir.
Faut découvrir, donc
ah,
toi
bah, sur de visu, quoi.
De visu, donc toi.
Non, mais je veux dire sur place. Quoi.
Oui, c'est ça. Non, mais si quelqu'un ne met pas de photos, c'est pas grave. De photos d'en dessous.
Ah oui, non.
Non, c'est pas grave. Il manque à la tête. Ok. Daniel, est-ce qu'à l'époque, quelqu'un qui refusait de t'envoyer des nudes, c'était niet tout de suite ou...
Non. Le nude est toujours arrivé en deuxième ou troisième ou quatrième position à la conversation après au moins une demi-heure de conversation ou une heure. J'ai jamais demandé de nude. Ça m'a toujours été envoyé. Pratiquement, et c'était pas un passage obligé, mais bon, c'est vrai que quand je cherchais un plan cul, j'aimais bien savoir quelle était la taille du cadeau que j'allais déballer.
D'accord.
C'est joliment dit, j'aime beaucoup.
Ça dépend de la recherche aussi, ouais, effectivement.
Ça dépend. Alexandre, toi, est-ce que c'est un passage obligé pour toi ?
Non, du tout, mais. C'est quand même préférable, on va dire.
Ah, c'est quand même préférable aussi. Bon. Ok. Non, parce qu'il y en a qui ont peur quand même d'envoyer. Ça pourrait se retrouver sur les réseaux ou ailleurs.
C'est ça. En fait, le problème avec cette histoire-là, c'est qu'effectivement, les gens font ce qu'ils veulent, mais il faut faire gaffe aussi à, à ce que la personne, il faut à mon avis se méfier aussi de ce que la personne pourrait en faire malheureusement. Ça peut très vite se retrouver. Après, tout le monde n'est pas mal intentionné, mais il existe des personnes qui sont ultra mal intentionnées, qui effectivement réclament des photos pour finalement faire du mal à quelqu'un, quoi.
Parce qu'il y a quelques années, il y avait eu un profil sur Tumblr où c'est quelqu'un qui mettait des photos donc de Grindr et autres, avec la photo de la tête d'un côté et la photo nude juste à côté pour le lier. Donc ça avait fait un grand bruit à l'époque. Donc ça peut être le risque. Ça vous fait pas peur de mettre des nudes en sachant que des gens pourraient l'utiliser vu qu'ils ont votre visage et les nudes et le mettre un à côté de l'autre?
Ça dépend encore du contexte, hein. Comme je dis, si la personne effectivement elle est mal intentionnée et tout ça, mais effectivement ça fait peur. Mais si tu t'assures que la personne elle soit clean au niveau de ça, en soi tu peux faire confiance, mais il faut faire gaffe quand même, quoi.
Ok. Bon, j'espère qu'on a répondu à sa question. Donc, pas forcément un passage obligé, de toute façon. Et toujours avec le consentement, de toute façon, pour recevoir des images. Très bien. Stéphane de Trélazé qui dit... Alors, je suis hétéro. Écoute, dommage pour toi, Stéphane. J'ai envie d'essayer avec un mec. Déjà, tu te rattrapes. Par quoi commencer ?
Il est d'où ? Je vais lui dire bonjour. Ah,
il est de Trélazé, j'ai pas son âge. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'il doit faire ? Alors, il doit être sur les réseaux, il doit parler d'abord, il doit en parler à sa mère, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait faire ?
Non, ça dépend si c'est juste par. Quand on parle envie d'essayer, c'est envie d'essayer sexuellement quelque chose ou,
Ouais, je pense que là, oui, essayer, oui.
Sexuellement, c'est mettre les choses au clair dès le début. Mettre les choses. Le début.
Il est peut-être bi, hein, tout simplement. Il n'est pas forcément gay. C'est pas si simple.
Je pense que c'est même pas une question d'orientation sexuelle. C'est peut-être que effectivement, il a envie de tester quelque chose. Il a envie de tester une nouvelle expérience. Et à ce moment-là, tant qu'il est clair dès le début sur ce qu'il veut, sur ce qu'il souhaite, en soi, par où commencer, dire bonjour et engager une conversation, quoi.
Est-ce que vous, ça vous est arrivé de rencontrer des hétéros qui étaient hétéros avant vous, qui ont joué un peu avec vous, puis qui sont restés hétéros après vous ?
Non.
Donc pas Daniel, lui ça l'a... Tout de suite il passait du côté obscur dès qu'il rencontrait Daniel, c'est ça ?
Il a pas se caché de la lune.
D'accord. Par contre, Dylan, ouais, donc tu as rencontré des hétéros, ils faisaient ça juste pour essayer, puis voilà, et après ils vivaient leur vie tranquille.
Et au fait, j'ai dépucelé un hétéro, au fait. Donc oui, c'est encore mieux.
Ça peut arriver, bah oui, effectivement.
Ça peut arriver, et la personne est restée hétéro.
Et elle est restée hétéro, donc tout n'est pas automatique. Olivier ?
Moi, je lui conseillerais de prendre son temps quand même, parce que moi, je fais partie de la vieille génération. Et il y a 25 ans, en fait, mon premier mec, c'était pas du tout un cadeau. Ouais. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de connaître les gens, peut-être d'abord fréquenter les boîtes, les lieux. Et puis voilà, quand tu t'as craqué sur un mec, ok, tu fais ça avec lui.
Ouais, c'est-à-dire que pour une première...
pas prendre le premier venu, tu risques d'être super déçu, et puis voilà, de vouloir après.
C'est vrai qu'on se souvient souvent de sa première fois, donc il ne faut pas effectivement la planter. Alexandre, ton avis là-dessus ?
Il faut vraiment qu'il prenne son temps, et puis qu'il voie qu'il n'y ait pas de forcing, quoi. S'il n'aime pas vraiment, faut qu'il arrête. Et puis, de toute façon, personne ne le jugera d'ici dans le milieu gay, normalement. Donc, voilà.
D'accord. Et c'est pas forcément parce qu'il a envie d'essayer qu'il est gay, donc apparemment.
Après, j'avais envie de dire quelque chose, les gars. Tenant une boîte gay, je peux vous dire que j'ai quelques hétéros qui viennent, quelques personnes qui sont mariées, j'en ai pas mal, qui ont toujours été gays ou qui sont en passe de le devenir, et ils se heurtent à beaucoup de problématiques, notamment le physique, notamment les codes. Ils connaissent pas, ils savent pas comment ça marche chez nous, si je puis dire. Ça peut faire un peu sectaire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mecs avec beaucoup de désillusions, beaucoup de tristesse, qui se sentent très seuls. Ils ont quitté femme et enfants. Et ça peut être hyper compliqué, et cette réalité peut être hyper dure, parce que tenant une boîte gay, je peux vous dire qu'ils sont pas tendres. Putain, ils sont vraiment pas tendres, excusez-moi du terme. Donc attention, prends ton temps et faut bien mesurer les choses et peser le pour et le contre pour éviter de s'exposer à des fragilités émotionnelles qui peuvent être dures à réparer.
Donc peut-être avec une connaissance, voilà. Bien prendre le temps de la connaître, pas forcément foncer dans le milieu tout de suite, pas forcément sortir en boîte tout de suite.
Tout
Tout à fait d'accord, mais c'est exactement ça, parce que c'est vraiment très dur pour certains. Pour certains, ils se réveillent à 40 ans, à 30 ans, ou à 50 ans même, et ils pensent qu'ils vont pouvoir enfin se révéler, et puis ils ne trouvent pas. Et puis c'est compliqué, et puis ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas l'âge, ils n'ont pas certaines choses. Et en général, ils sont attirés par des beaux garçons qui ne sont pas du tout attirés par eux. Enfin, ça peut être compliqué.
Ça peut être
très compliqué.
Quelqu'un a une corde pour Stéphane de Trélazé?
Oh non. Oh, bichette.
Non, mais en tout cas, la question c'est par quoi commencer. On va donc éviter de commencer par Grindr, par exemple.
Je pense. Après Grindr, c'est peut-être le moyen le plus simple après de trouver.
Oui, mais ils sont violents quand même. Hein. C'est un peu violent, Grindr.
Ça peut être très violent sur Grindr. Après, effectivement, si la personne ne veut pas y aller par trois ou quatre chemins, si elle a juste envie de trouver une expérience sexuelle. Qui va sur Grindr, quoi.
Ok, bon, mais c'est pas les mêmes codes que chez les hétéros, donc il faut qu'ils fassent attention, on l'a bien noté. Eric de Vannes, qui nous écrit... Ah, bah alors c'est l'inverse. Alors, je suis marié, ma femme m'a dit qu'elle était lesbienne, que dois-je faire? T'es dans la merde. Alors, qu'est-ce que lui doit faire? Je sais pas si lui peut faire grand-chose, Olivier.
Si elle est malheureuse, faut la laisser partir, je pense. Faut qu'elle vive sa vie aussi,
T'achètes avec toi.
Il faut l'accompagner en tout cas, oui.
Après, est-ce qu'elle.
Il va réussir à la comprendre d'abord et puis elle l'a libérée, quoi, je pense. La libérée du mariage, quoi.
Peut-être déjà lui demander pourquoi il était avec elle. Peut-être un petit peu. Parce que peut-être qu'elle est bi. Elle n'est peut-être pas forcément lesbienne. Après, si elle est vraiment lesbienne à 100%, c'est compliqué de forger un couple sur le mensonge. En tout cas, si elle lui a dit. Il a dit ma femme m'a dit. Donc elle lui en a parlé. Donc déjà, c'est un premier pas.
Déjà, si elle lui dit, c'est qu'elle a des envies et qu'elle est pas bien avec lui.
Il faut voir le contexte. Il faut voir le contexte. Est-ce qu'effectivement, c'est une envie passagère? Est-ce que c'est des plans à plusieurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris, excusez-moi le terme, ses couilles à deux mains? Je parle d'une femme, désolé, mais pour aller voir son mari et lui dire, écoute, je peux plus vivre comme ça, j'aime les femmes. Et effectivement, si tel était le cas, avec toute la douleur que ça implique, effectivement, quand on aime, il faut aussi savoir laisser partir.
Alexandre, Florian, Dylan?
Du même avis. Hein, si la personne se rend compte qu'elle est plus heureuse avec, là pour le cas de cette femme, si elle est plus heureuse avec son mari et qu'elle serait plus heureuse avec une femme, à ce moment-là, la meilleure des choses, c'est de la laisser partir. Ça fait mal, hein, mais voilà, faut la laisser partir, faut la laisser être heureuse parce que c'est le bonheur. Enfin, c'est le bonheur de l'autre aussi.
Et en tout cas, se parler aussi pour que s'il y a séparation, ce soit le moins douloureux possible pour les deux.
Et puis c'est pas de sa faute. Ce qu'on peut dire également à Eric, c'est que c'est pas sa faute à lui.
Oui.
Voilà. Enfin, c'est pas sa faute à elle non plus. Mais lui, il n'y peut rien, malheureusement. Et si on a des lesbiennes qui nous écoutent et qui sont en couple avec un garçon aussi, ou même un homme avec une femme, effectivement, s'il pense être homo, soit ils restent dans le moule, comme on dit, mais ils sont malheureux, soit ils sortent. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester dans le moule pour être heureux puis vivre sa vie sur autre chose ou casser tout et puis partir sur ses envies sexuelles plutôt? Qu'est-ce qui est le plus important?
Pour ma part, il faut tout casser. Il faut partir.
Ouais. Vivre dans le mensonge sexuellement, ça marche pas, c'est ça?
Ça mène au suicide.
Ah oui, carrément.
Ça peut mener au suicide.
Oula,
ah oui, je pense, ouais. Je pense quand imagine-toi te mentir à toi-même, essayer de faire l'amour et te réveiller avec une femme ou un homme pour à l'inverse alors que tu n'es pas attiré. Enfin, c'est une contrainte charnelle. On est sur une contrainte charnelle en fait, et c'est terrible. C'est une torture de tous les jours. Tout ça pourquoi? Une pression sociale ou autre? Effectivement, quand on a des enfants, qu'on a construit des choses, je pense qu'il faut faire ça le mieux possible dans le plus de compréhension possible, mais en tout cas ne jamais jamais se mentir à soi-même, ça me paraît évident.
Ok. Olivier?
Pas se mentir à soi et pas mentir aux autres, surtout aussi.
Et quand même dire quand même que les personnes n'hésitent pas à se rapprocher non plus des assos LGBT, qui sont là aussi pour accompagner, pour répondre aux questions et pour justement que ça se passe le mieux possible, oui. Peu importe la décision qui est prise à la fin.
Tout à fait, il y a des centres LGBT effectivement dans presque toutes les villes ou des assos privés comme Tonix hein, par exemple, ou Quasar à Angers, donc n'hésitez pas à venir effectivement en parler, même si vous n'êtes pas gay. Donc. Quand un danger est... Ah bah c'est un autre style, attention c'est différent. Est-on obligé de faire la sodomie pour prendre du plaisir? C'était écrit comme ça.
Non, faut faire un fist.
Oh, mais t'es dégueulasse. Oh, t'es grave.
Excusez-moi, je viens de me réveiller, ça parle de fist.
Non, c'est bon.
Non, je déconne.
Ça va être coupé au montage, ça. Alors, est-ce qu'on est obligé, est-ce que c'est un passage obligé? Voilà, apparemment, lui, il a un peu peur de ça. Est-ce qu'on peut prendre du plaisir sans passer par là?
Bon, oui, oh là là. Mais oui, on peut prendre du plaisir sans sodomie, évidemment.
Ah bon? Olivier dit ah bon.
On te l'a jamais dit, Olivier. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Je pense qu'il faut arrêter de diviniser un petit peu ce mythe de la sodomie, comme quoi c'est le summum du plaisir sexuel. Effectivement, c'est cool. Effectivement, si t'aimes bien, si t'es consentant et tout ça, t'aimes bien, ça peut être cool. Mais il y a tellement de choses à faire. Faut juste être un petit peu imaginatif et puis voilà quoi.
On retrouve d'ailleurs cette question chez les femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qui prennent du plaisir sans pénétration. Donc c'est pas forcément obligatoire que ce soit chez les femmes, donc et chez les gays. Un autre avis, Florian ?
Non, moi je dirais que rien n'est obligatoire de toute façon. Donc
se forcer de temps en temps pour lui faire plaisir ou non ?
Non, même pas. Non,
non même
non,
pas. Pas. On se force jamais. Faire. D'accord. Bon. Ah non, je pose la question. Aline Dumont. J'ai un ami qui aime les garçons. D'accord. Comment puis-je lui en parler? Quel mot choisir? Gay, homo, PD. Bon, alors PD déjà tu oublies.
Oui.
Déjà il peut être bi, il peut être pan, il peut être.
Ouais. Bon déjà après est-ce qu'elle est obligée de lui en parler? Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous?
Dans ce genre de situation, ça dépend du niveau d'amitié. Si elle sent que la personne qui est en face d'elle est en souffrance quelque part ou qu'il y a vraiment quelque chose de compliqué, je pense que peut-être en parler, peut-être une façon d'aider et une belle façon de prouver son amitié pour la personne. Maintenant, elle peut se heurter effectivement à un mur, quelqu'un qui le sait, qui est gay, mais qui peut peut-être se dire et lui répondre, mais ça va pas, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais pensé ça, je ne suis pas comme ça. Et elle peut se heurter effectivement à un petit peu d'agressivité ou d'incompréhension en face, mais c'est vrai qu'encore une fois on touche au charnel et on touche à quelque chose qui est peut-être un petit peu tabou dans la société encore maintenant et ça peut être compliqué. Il faut qu'elle puisse juger de la personne qu'elle a en face d'elle et juger de la propension négative qu'elle peut occasionner ou alors positive. Mais encore une fois, ça peut être aussi une libération.
Mais d'après toi, c'est à elle de faire le premier pas et de lui en parler ?
C'est délicat. C'est effectivement délicat. C'est compliqué de se dire, de rentrer dans le charnel de la personne, effectivement. Est-ce que je le ferais, moi, personnellement ? Si je tenais vraiment à la personne, oui. Je rentrerais dedans.
Bon, mais dis comme ça.
Clairement.
Dis comme ça, tu sais.
Non, pas littéral, les gars, je suis passif.
Ah, bon, bah écoute, on note. Florian, si donc tu avais quelqu'un qui était gay, qui n'en parle pas, est-ce que tu ferais le premier pas pour lui en parler? Et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller à cette demoiselle?
Après, c'est vrai que c'est délicat, forcément. Je rejoins un peu Daniel sur le niveau d'amitié qu'elle peut avoir avec lui. Après, elle peut essayer de lui. D'essayer de tendre des perches entre guillemets de façon subtile hein, parce qu'il y a enfin voilà des fois c'est un truc un peu lourd et si elle en parlait qu'elle lui en parle d'abord à lui avant peut-être d'en parler à d'autres copains et à
faire
d'accord c'est mieux en le disant parce que parfois souvent à l'école en plus ça peut bien tourner
mais bon c'est ça le privé il est pas forcé de vouloir en parler non plus
aussi oui.
Alexandre, un avis là-dessus? Est-ce qu'il faut lui dire, lui en parler?
Moi, je rejoins les premiers avis, c'est-à-dire que si elle sent qu'il est mal par rapport à ça, ce serait bien de lui parler, mais s'il s'en fiche littéralement, pourquoi forcer les choses? Parce que s'il veut en parler, il lui en parlera.
D'accord. Donc, essayer d'être fin en amenant un peu le sujet, mais pas forcément lui dire que c'est pour lui. Et s'il a envie d'en parler, il le fera. S'il en fait pas, on laisse tomber, on passe à autre chose. C'est ça?
Tout à fait.
Ok. Bon, ben voilà, donc pour ta réponse, Aline. Et la dernière question, c'est Michael Danger. Alors, il a le seum, Michael. Les gays peuvent-ils tomber amoureux et former un couple solide? Et deuxième question, à quel âge peut-on espérer être en couple solide? Donc, à mon avis, lui, il a enchaîné les perles.
Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour former un couple solide. Ça dépend de ce que tu veux, toi, en tant que personne. Est-ce que tu es prêt à t'engager dans une relation? Qu'importe la relation, si elle est monogame, si c'est une relation libre, tout ça. Mais si tu es prêt à assumer et t'engager dans une relation... Écoute, t'as pas d'âge, ça peut être à 18 ans, ça peut être à 65 ans, peu importe quoi. Et si les gays peuvent tomber et former un couple solide, bah oui, évidemment, évidemment.
Mais tu penses que donc, même à 18 ans, on peut tout de suite tomber dans l'homme de sa vie et que ce soit tout le bon, quoi?
Je dis, ça dépend des personnes. Si la personne, elle est, comme je dis, je vais me répéter, hein, si la personne est prête à s'engager sur une relation à long terme, effectivement, bah oui, à 18 ans, oui. Si seulement la personne est prête, quoi. Ouais. Effectivement, faut pas se dire 4 ans après, ah bah non, finalement, j'ai plus envie, quoi.
Et les autres, par rapport à votre expérience, est-ce que les couples se forment plus à un certain âge ou...
Pour ma part, j'ai commencé assez tôt, vers 16 ans, à beaucoup sortir, à travailler également dans le milieu des années 90. C'était assez facile de se faire passer pour majeur et de travailler au black. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué, mais bon. Et de 16 à 20 ans, je me suis éclaté. Et effectivement, à 20 ans, j'ai rencontré quelqu'un, je suis resté 8 ans avec. Et pour ma part, c'était un petit peu trop tôt. J'avais vraiment des regrets. J'ai eu l'impression de ne pas avoir accompli tout ce que j'avais à accomplir et de ne pas m'être amusé de la façon dont j'avais envie. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de la question, ça fait 12 ans que je suis avec Guillaume. 12 ans qu'on a une relation absolument classique. On ne fait pas de plan à plusieurs. On fait rien de spécial. Il est tout à fait possible d'aimer à tout âge. Tout existe dans la nature. Même à 16 ans, on peut rencontrer l'homme de sa vie. Le tout, c'est toujours une question de charnel, de personne, de caractère. Voilà. Voilà pour ma part.
Florian, un avis là-dessus? Est-ce qu'on y croit encore?
Oui, non, mais je pense que c'est possible. Tout est possible à n'importe quel âge. Il suffit de tomber. Enfin, il suffit que les deux personnes soient en connexion, on va dire ça comme ça, et puis ça fonctionne. Après, peu importe. Après, effectivement, le côté vraiment tomber amoureux jeune et penser que c'est l'homme de sa vie, des choses comme ça, je pense que c'est... Ça peut être tout. En fait, ça peut occulter toute une partie de l'expérience qu'on peut avoir, effectivement, de sa jeunesse, de rencontrer des gens, d'avoir des relations autres que, finalement, se fixer que sur une personne. Mais encore une fois, ça dépend de chacun et il y a des personnes qui ont rencontré leurs copains très jeunes et qui sont encore avec parce que voilà, ou en tout cas ils ont ouvert le couple d'une certaine façon, en tout cas ils se sont parlé et ça a pu fonctionner. Mm-hmm. Mais chacun est différent, mais après oui, il faut toujours y croire, peu importe quand.
Alexandre,
moi c'est pareil, hein. Si vraiment il pense que c'est l'homme de sa vie ou qu'il a trouvé l'homme de sa vie, faut y aller. Et puis après, advienne que pourra, quoi. Il fait sa vie.
Bon, apparemment, mais oui. Par rapport à la question de Michael, c'est apparemment lui, il n'y arrive pas, hein, puisque.
D'accord.
Olivier.
Alors, on parle de couple solide. Alors, pour moi, pour un couple solide, il faut le construire, le couple. Donc, il faut des fondations. Il faut être.
Tout à fait.
Il faut être compréhensif. Il faut discuter avec son copain. Il ne faut pas non plus partir à la moindre occasion, à la moindre crise. Il faut discuter.
Donc ça se fait sur la durée, c'est ça que tu veux dire?
Sur la durée, oui.
Oui, non, mais de toute façon, pour rebondir sur ce que dit Olivier, effectivement, c'est pas parce que tu as une petite dispute que forcément c'est la fin des haricots, quoi. Je pense que les disputes, ça fait partie de la vie de couple, et puis voilà, si ça arrive pas, bah écoute, tant mieux, t'es tombé sur quelqu'un de compréhensif et qui te correspond, mais voilà, c'est pas la moindre petite dispute qui fait que ouais, tu te barres, c'est la fin du monde. De toute façon,
donner sa chance à tout le monde.
Mais pas donner sa chance à tout le monde, mais je pense que personnellement, moi je pars dans l'optique que tu tombes amoureux plusieurs fois dans ta vie. Tu n'as pas forcément t'as pas forcément un coup de foudre et bam, c'est bon, dès que ça casse, c'est bon, t'es fini, tu vas être célibataire à vie, tu vas être en couple avec ta main droite jusqu'à la fin de ta vie, tu vois. Mais pour moi, tu tombes amoureux plusieurs fois et l'amour, c'est peut-être c'est peut-être l'aventure la plus folle de ta vie, quoi.
Très bien. Allez, on va s'arrêter là sur ces bonnes paroles. On va faire une pause et juste après, on va reparler de la situation actuelle, mais plutôt du côté rire, hein, puisque il y a beaucoup d'imagination et de créativité sur Internet. Against my chest, your lips pressed to my neck. I'm falling for your eyes, but they don't know me yet. This feeling I'll forget. I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. This feels like falling in love. Falling in love, falling in love. Settle down with me, you'll be my safety. I'll be your lady. And you made to keep my body warm, but I'm cold as the wind blows. So hold me in your arms, nah, nah. Your heart's against my chest. My heart's against your chest. It's best to your neck. It's best to your neck. I'm falling for your eyes. I'm falling for you, but they don't know me yet. With this feeling I forget, I'm in love now. Kiss me like you wanna be loved. You wanna be loved. You wanna be loved. This feels like falling in love. Falling in love, falling in love, love, love. And I've been feeling everything from hate to love, from love to lust, from lust to truth. I guess that's how I know you. So I hold you. So now you give it up. So darling, won't you? Oh man. Voilà, c'était un extrait du concert Together at Home. Il aime bien mon accent, Alexandre, alors je vais très anglais. Allez, vous êtes toujours sur Radio G, Fréquence Zik ou Jet FM dans l'émission LGBT Tonics Live. Ce soir, on a répondu à vos questions et on va maintenant découvrir vos créations et vos citations qui nous font bien rire sur les réseaux sociaux à propos du confinement. Alors, Dylan, qu'est-ce que tu as à nous proposer?
Bon, vous vous souvenez du débat pain au chocolat, chocolatine? Vous vous souvenez de ce débat qui a divisé la France en deux pendant des mois de débat, alors qu'il n'y en avait pas, parce qu'on dit pain au chocolat, merci. Donc, il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux, ce qui est très drôle, où tu avais la carte de la France qui était divisée en deux. Donc en haut, tu avais écrit coronavirus, et dans le sud-ouest, il y avait écrit coronatine. Voilà, c'est tout. Ça fait extrêmement rire.
D'accord, coronatine, très bien. Florian, quelque chose?
J'ai quoi? Oui, j'ai un... Alors, c'était sur Twitter aussi. Un tweet où une personne a mis « Quand je pense que je dois attendre 5 semaines que mes colis AliExpress arrivent... » Et qu'un virus en 3 jours, il fait le trajet Chine-France.
Voilà. Ah, c'est pas con.
Ah, pas
ouais,
mal.
C'est vrai, pas con, effectivement. Daniel?
Moi, pour ma part, j'ai beaucoup ri avec ce que des gens trouvent le temps de faire, c'est-à-dire d'étaler dans un couloir des tonnes de flacons, de petites boîtes, et de faire passer un chien dans le couloir, histoire de tout casser, et ensuite de faire passer un chat, et le chat passe sans aucun souci. Ça m'avait fait beaucoup rire, le temps passé à mettre toutes ces choses par terre juste pendant le confinement, et voilà.
C'est vrai vraiment que, le. On a le temps. Olivier.
Oui, mais j'avais deux phrases qui m'ont fait rire. Donc il y en a une, c'est on aurait dû se méfier. Une année qui s'écrit 2x20, forcément, ça sentait la quarantaine.
Ah oui, ah, joli. Un autre?
Et l'autre, c'est ben, à ceux qui devaient se marier prochainement, la vie vous donne une seconde chance. Réfléchissez bien.
D'accord.
Ça, j'aime beaucoup.
Alexandre, est-ce que tu as quelque chose?
Pourquoi, pour parler des quelques préférés, moi j'ai plus des mèmes. qui parlait de ceux qui fêtaient leur anniversaire au mois d'avril et on voyait un gâteau, une bougie et une personne en larmes devant le gâteau.
Voilà. Oh, bichette.
Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés en mars, en avril et du coup en mai.
Ouais.
Et ensuite, il y avait marqué le deuxième, c'était la personne au début du confinement qui était bien musclée, parfait, et puis à la fin du confinement qui était devenue obèse avec marqué Netflix sur son ventre. Voilà.
Je crois que c'est ce qui va t'arriver, oui.
Si j'avais lu, mais imaginez que le confinement ait eu lieu il y a 20 ans, ça aurait été dramatique. Quoi. On n'aurait pas eu Internet, on n'aurait pas eu les réseaux sociaux, on n'aurait pas Netflix, on n'aurait rien. Quoi.
C'est ça.
Il faudrait on aurait fait jouer aux cartes avec ses parents.
Ou du snack sur son 3210. Ouais, ça aurait été un petit peu compliqué. On repart. Florian, une autre petite.
Oui, encore un tweet d'une personne qui se moque un petit peu de tous les gens qui donnent des avis sur Twitter, comme ça, qui savent un petit peu tout sur tout sur le corona. Et donc, en fait, il y a marqué l'équipe médicale de Twitter donnant leur avis sur le coronavirus. Et en dessous, il y a la photo de l'équipe de la série H. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc avec Jamel, avec
Eric
Ramsey, voilà.
D'accord, super crédible en fait.
Donc c'est plutôt drôle, quoi. Voilà, le truc.
Dylan, autre chose.
Alors la première phrase, c'est « Bientôt nous devrons aller chasser pour manger. Je ne sais même pas d'où viennent les lasagnes.
» Sauvage.
Et la deuxième, à vrai dire, on ne s'ennuie pas trop en confinement. Mais il est étrange que dans un paquet de riz d'un kilo, il y ait 769 grains de riz, et dans un autre du même poids et de la même marque, il y en ait 789.
Il y en a qui s'emmerdent. Hein. Florian.
Un tweet un peu subtil. Enfin, subtil, non, il faut se souvenir de l'actualité avant le coronavirus. Personne qui met le coronavirus a été interpellé à l'aéroport de Glasgow. Il aurait eu recours à la chirurgie esthétique, selon les sources concordantes.
Pas mal. Je pas vois. Mal. C'était par rapport à l'arrestation
De Ligonnès, effectivement. Voilà.
C'est ça. Olivier.
Alors moi, je viens de congé du PQ. On ne sait jamais.
Okay. C'est pas mal.
Sinon, pour Daniel, tu veux une soirée mousse, excitante, sensuelle, sans sortir de chez toi? Eh bien, fais-toi plaisir. Va faire la vaisselle.
Pas mal.
Une soirée
vaisselle,
hein,
ça pourrait être sympa. Ouais. Alors, Dylan, un petit extrait à nous faire écouter.
Ouais, alors, c'est une. En fait, ça vient d'une jeune humoriste chanteuse qui s'appelle Camille Lelouch. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Camille Lelouch.
Si, on
elle,
connaît.
Elle est vachement populaire sur Instagram. Et en fait, elle a décidé à un moment, lors d'une publication, de jouer au piano un petit air et de faire une chanson par rapport au corona. Je vais vous faire écouter ça et après je vous fais écouter juste un deuxième truc parce qu'elle a réussi à transformer sa chanson qui est devenue ultra populaire. Je vous fais écouter. D'abord, le premier extrait.
Tout ça à cause d'une putain de chauve-souris. Salope. Tout ça à cause. J'ai cru qu'il y avait une chauve-souris chez moi. Ouh, corona, va bien niquer ta mère.
Elle a joué au piano, ça.
Ouais.
Et le tube a eu tellement de succès, on lui a tellement demandé, qu'elle a décidé de le mettre en ligne sur les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, tout ça, et d'en faire un gigamix pour en faire un tube. Et ça donne ça.
Tout ça à cause. Putain de chauve-souris, salope, tout ça à cause. Croyais qu'il y avait une chauve-souris chez moi. Ouh, coco, corona, va bien niquer ta mère. Coco, corona, va bien niquer ton père. Ah, ouh, on est confiné à cause de toi.
Sans sortir.
travail, un peu de musique et tout ça.
Alors, Florian, une dernière petite, on y va.
Alors, c'est Walidia qui a mis un tweet qui dit « T'es un ancien si t'as survécu à la vache folle, la grippe aviaire, chikungunya, le Zika, Ebola, et que t'attends le coronavirus torse nu dans le brouillard.
» Ouais, t'es un winner. Très bien, merci Florian. Ah, une dernière peut-être avec Olivier ?
Alors, c'est pas une blague, c'est un petit coup de cœur. Voilà, c'est dur actuellement d'être photographe de mariage parce que donc, tous les mariages sont annulés.
C'est clair.
Donc il y a un photographe anglais qui s'appelle Chris Wallace qui, pour ne pas perdre la main, a décidé de mettre en scène un mariage, mais en personnage Lego.
Oui.
Donc il a photographié des Lego en mariage. Donc il a inventé l'histoire d'un couple dont la femme, dont le père est Harry Potter. Et donc on voit, il a pris des superbes photos des Lego. Voilà, on mettra peut-être sur le site
ouais, de Tennis Live, ouais.
C'est vraiment très très léché comme photo et tout, et c'est magnifique, très poétique, c'est même émouvant, on se laisse même à s'émouvoir devant des Lego qui se marient, bon. Pour dire au point où on en est rendu. Quoi.
Bon, et c'est un couple hétéro par contre, il faudrait faire la même chose avec un couple homo, c'est clair.
Je vais avoir aussi un petit coup de cœur en fait, bon, ça, c'est le moment où je sors un peu mon melon, mais c'est pas grave.
Ah, Alexandre, t'es prêt, c'est bon.
Non, en fait, je vous explique. En gros, il y a quelques semaines, avec deux de mes amis à moi, on a lancé un challenge qui s'appelle le Signe ta scène challenge. En fait, le but, c'est tout simple, c'est avec les moyens que vous avez chez vous de reproduire une scène du film ou de la série que vous voulez, tout simplement. Donc, à l'heure actuelle, on a sorti à peu près 3 ou 4. Et donc, en fait, ce qui est moi, le coup de cœur que j'ai pour ça, c'est que les gens s'y sont mis. Et on a reçu des dizaines de vidéos de personnes qui s'y sont mis à justement reproduire des scènes de films, des clips, des séries, tout simplement. Et ça fait plaisir de voir qu'effectivement, la création n'est pas morte, même dans cette période de confinement. Donc voilà, c'était juste pour pousser un petit coup de cœur par rapport à ces personnes qui prennent le temps de le faire et de s'occuper par rapport à ça.
Mais alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut récupérer ou voir tout ça? Ou est-ce que c'est sur les stories de chacun ou...
Alors, il y a tout simplement, quand vous faites une vidéo, vous mettez le hashtag signe ta scène. Donc voilà. Et en fait, dès que vous appuyez sur le hashtag, effectivement, vous pourrez retrouver des vidéos d'autres personnes.
Pour suivre, il y a aussi des personnes qui reproduisent des œuvres d'art, des tableaux d'artistes aussi, qui se filment comme ça et qui refont chez eux les tableaux de maîtres cultes dans la peinture.
Bah écoute, quand on va se retrouver, on fera le radeau de la Méduse alors. Hein.
Qui c'est qui fait le radeau?
Allez, merci à tous. C'est la fin de Tonix Live. On se retrouve très vite en FM ou sur les sites de Radio Jet FM, Fréquence Zik, Deezer et Spotify. Alors juste une petite info pour flatter notre ego. Hein, le dernier Tonix Live est le podcast le plus écouté sur radio-g.fr. Donc bravo hein, à tous. Nous produisons également une autre émission qui s'appelle Les Confinés. Et c'est le samedi soir, 21h sur radio-g.fr. Et le mercredi midi sur Jet FM. Et bien sûr en podcast hein, quand vous voulez. Merci à nos chroniqueurs de ce soir. Merci Alex.
De rien.
Merci Olivier.
De rien, un bisou.
Merci Dylan.
Et merci à toi.
Merci Daniel.
Merci à toi, merci à tous et prenez bien soin de vous.
Merci Florian.
Merci, bonne soirée à tout le monde.
Allez, bonne soirée à vous et à très vite. On vous embrasse. On vous embrasse où vous voulez d'ailleurs. Et n'oubliez pas qu'être gay, c'est aussi gay. C'était Tonix Live. We could do this all night. Drive through the leather door open and might encourage customers in. I watch the barmaid shot. Look like down on my luck. Two world wars and one world cup. Screamed by the desperate divided crutch. Used to have an empire then we grew up. Lost everything, who gives a money in a jukebox, rocks all night. Same bands, too much hype. Everyone knows, everyone sees fights. Everyone drinks in the corner, right? Everyone knows I see blood types. Same, we match and match the light. I love her, she loves me too. That's why we get together. There are people around here.
Radio G 101.5 FM. S O